les premiers numéros de Spirou, celui de 1938, n'est pas une revue fondamentalement très très originale. Donc elle publie en grande partie des créations américaines. On trouve Dick Tracy, Tarzan, Superman, Red Rider, ce genre de choses. Et il y a notamment en France toute une série de revues du même type, comme le journal de Mickey, Hourra, l'aventureux, l'As, enfin il y en a toute une série. Et donc c'est un petit éditeur hein, à Marcinelle, dans la banlieue de Charleroi, les éditions Dupuis, qui lance une publication pour enfants. Avec quand même quelques auteurs francophones, dont Rob Veil, qui est un Français, et qui crée donc le personnage de Spirou en 1938, avec son costume de groom, puisque dans le premier épisode, il a cette fonction-là. Et là, il y a un milliardaire que rencontre Spirou dans cette première histoire, qui lui propose de partir faire le tour du monde. Voilà, et donc il va suivre le personnage, et puis Spirou ne retournera plus jamais au Moustique Hôtel où il avait commencé sa carrière, mais curieusement, il va conserver ce costume qui deviendra très vite anachronique, voire complètement ridicule dans certaines circonstances. Et que d'ailleurs, les auteurs qui ont suivi ont essayé soit de moderniser, soit d'enlever complètement sans jamais totalement y arriver. Enfin bref. Le Spirou de Rob Veil, c'est de la bande dessinée écrite au kilomètre, quelque chose de très sympathique, mais qui, à mon avis, n'aurait sans doute pas. Enfin, on aurait laissé quelques lignes dans les encyclopédies si ça s'était arrêté là. Ce qui est important d'abord, c'est l'arrivée de Jigé, donc un an plus tard en 1939, et puis la Deuxième Guerre mondiale éclate. Jigé, qui a voilà, 25-26 ans à ce moment-là, très vite va se retrouver à quasiment faire le journal à lui tout seul, parce que les bandes dessinées américaines sont très difficiles à amener. Souvent, elles sont bloquées à l'entrée du continent. Beaucoup d'auteurs, Rob Veil entre autres, sont partis lutter sur le front. Et donc, il va se retrouver très vite à faire tout le journal de Spirou, quasiment à lui tout seul, de faire des planches de raccord pour terminer une histoire de Superman, d'arriver avec la biographie édifiante de Don Bosco, créer avec le rédacteur en chef de l'époque le personnage de Jean Valardi, détective, imagine une vie de Christophe Colomb, enfin voilà, il est un petit peu au four et au moulin à ce moment-là, il dessine des tas de choses, forcément, parce qu'il a une production qui est absolument pléthorique, tout ça est assez inégal, mais avec régulièrement des moments de génie comme ça. Parfois, il y a certaines planches qui sont parfaites du début à la fin, il y a certains épisodes de Spirou là même où il arrive à une forme d'expressionnisme. On n'est pas loin de Max Beckmann ou de Georges Grosz parfois dans certains épisodes. Et puis la semaine suivante, ça se casse un peu la gueule parce qu'il était moins inspiré, je ne sais pas très bien. Voilà, donc lui amène, va être le début de cette émulation. Le journal s'arrête, interdit par l'occupant allemand, reparaît en 44. Et puis en 46, arrivent notamment deux jeunes auteurs qui vont être fondamentaux, qui sont Franquin et Maurice. Et le contact fonctionne tout de suite avec Jigé. Ils vont se nourrir mutuellement les uns les autres. Alors il faut voir que Maurice et Franquin, au départ, viennent de l'animation, puisqu'ils ont travaillé dans un tout petit studio qui s'appelait la CBA, qui fonctionnait avec des bouts de ficelle, où ils sont un peu aguerris comme ça au boulot d'animateur. Ils ont adoré les premiers longs-métrages de Disney, Blanche-Neige par exemple, hein, c'était le premier, les films des frères Fleischer, mais c'est aussi des gens qui connaissent le cinéma hollywoodien, le burlesque notamment va beaucoup les influencer, les westerns classiques vont évidemment influencer Maurice comme c'est pas possible, et puis toutes ces bandes dessinées américaines, Popeye, Félix le Chat, Terry et les Pirates, etc. Donc c'est ce creuset populaire américain qui est vraiment leur culture. Comme ça, où les personnages sont très rondouillards, presque caoutchouteux. Lucky Luke a quatre doigts dans le premier épisode, comme Mickey. Les cactus ou les rochers sont en ballon de baudruche. Donc eux arrivent avec ça, et puis Jigé, lui, a son passif. Il a une formation dans les arts décoratifs, donc c'est quelqu'un qui s'est adonné à la peinture, à la poterie, à la gravure, qui aborde toutes les formes d'expression sans aucune hiérarchie a priori. Donc on peut sincèrement penser que quand il s'est mis à la bande dessinée, il n'y est pas allé en se disant c'est de l'alimentaire, mon vrai boulot c'est d'être peintre. C'était pas ça, c'est-à-dire je pense qu'il considérait toutes les formes d'expression un petit peu sur un même pied. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Jigé va leur apprendre à regarder. Une anecdote qui est souvent citée, mais c'est que Jigé faisait ce qu'il appelait du dessin japonais, c'est-à-dire qu'il s'agissait de regarder le sujet, pas regarder la feuille de papier et en avant. C'est une école du regard, Jigé les emmène, ils vont dessiner du nu à l'Académie de Bruxelles, etc., puisque à un moment donné, Maurice et Franquin vivent dans la maison de Jigé à Waterloo. Donc il crée comme ça une espèce de studio. Le style de Franquin, le style de Maurice va évoluer dans ce sens-là. Au tout début, on sait à peine distinguer ce qui est du Maurice et ce qui est du Franquin. Hein, c'est vraiment une digestion de tout ce creuset américain. Et puis petit à petit, ils vont chacun trouver leur autonomie. Puis arrive Peyo, qui était dans ce même studio de dessin animé, qui lui va peut-être rester plus proche de cette matrice originale, mais qui lui sera pas l'élève de Jigé. Arrive Tilleux par après, avec Gilles Jourdan, puis Machereau, par exemple, voilà. Bon, on est dans une revue qui est quand même une revue d'obédience catholique. C'est pas pour rien qu'on a des biographies édifiantes, entre autres de Don Bosco ou de Baden-Powell, par exemple, bon, qui n'a pas été canonisé, mais c'est presque ça. Hein. Puis c'était une manière de toucher les mouvements de jeunesse aussi. Donc c'est à la fois dans le projet éditorial, c'est une revue avec ses côtés pontifiants, assez conservateurs, mais dans ce carcan finalement très conservateur, ces auteurs vont injecter une grosse dose de fantaisie, voire même d'anticonformisme qu'on retrouve dans Gaston Lagaffe quand même, qu'on retrouve dans Gilles Jourdan où la police est quand même ridiculisée assez régulièrement, qu'on trouve même dans un épisode comme le Schtroumpfissime qui explique comme ça là, comment par des moyens finalement tout à fait légaux un démagogue finit par instaurer une dictature, etc. etc.